OpenAI, peut-être qu'OpenAI sera au même niveau qu'un Microsoft de moins, et finalement le petit mangera, enfin dépassera le, l'élève dépassera le maître.
Bonjour Théo.
Bonjour Rémi.
Alors bienvenue au Deep Talk, le premier podcast qui fait parler les faiseurs et les décideurs de la data et de l'IA en entreprise. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, t'es pas en entreprise encore, mais j'avais vraiment envie de te recevoir. D'ailleurs je te remercie pour avoir accepté mon invitation, parce que pour moi t'es une figure de LinkedIn aujourd'hui sur l'IA, faut pas te manquer. Hein. Comme je te disais, tu fais partie des top 3 favicon sur la tech IA, au dernier classement que j'ai regardé. Et du coup, pour te présenter, je vais lire un peu de ta bio. Sur ta bio LinkedIn, il y a marqué « Moi, c'est Théo, un mec de 17 ans qui t'aide à maîtriser l'IA avant qu'elle te maîtrise. » Du coup, je te donne la main et parle-nous un peu de toi, Théo.
C'est ça. Donc, je m'appelle Théo Leblanc. Je suis un créateur de contenu et entrepreneur de 17 ans. Aujourd'hui, je publie principalement sur LinkedIn, mais également sur ma newsletter et sur YouTube. Et avec pour mission de rendre l'IA accessible à tous. Donc, à travers mes contenus, à travers du coup différentes interventions que je peux faire, des conférences, des interventions d'entreprise, mais également en plaçant des personnes directement dans les entreprises pour construire des outils IA et permettre à ces entreprises et derrière directement à leurs clients de pouvoir profiter de l'intelligence artificielle.
Comment t'es tombé sur LinkedIn? Comment t'es tombé dans le bain de LinkedIn? Alors, tu vas me dire que c'est pas trop ta génération, toi t'es plus TikTok, YouTube. Comment t'es arrivé sur LinkedIn?
Je suis un vieux dans un corps de jeune.
C'est ça, c'est là où je veux venir.
C'est que je déteste les formats courts, TikTok, Instagram, etc. Alors, il va falloir que je m'y mette, donc faut pas trop que je crache dessus non plus. Mais j'aime pas du tout ce format-là où en fait on apprend rien, où c'est littéralement juste du scroll intensif et c'est poussé à son maximum, à son paroxysme, tous les biais humains. Et tous nos fonctionnements du cerveau qui vont jouer sur les addictions, etc. Et s'en servir finalement, les exploiter. Donc, j'aimais pas ça et c'est pour ça que je restais un peu loin du contenu. Ça fait quelques années quand même que je commence des projets, que je commence différentes choses, mais je publiais pas de contenu alors que c'est un truc qui m'attire depuis que je suis jeune. Je veux devenir écrivain, dans une autre vie, j'aurais été créateur de contenu, enfin youtubeur à plein temps. Du coup, j'avais ce rejet-là, mais je voyais Ulysse Lubin. Je sais pas si tu vois qui c'est un mec qui publie sur LinkedIn, sur YouTube, un peu partout, qui est très très bon aussi, l'une des meilleures plumes sur LinkedIn, et avec qui je discutais et qui un jour me dit « Tiens, pourquoi est-ce que tu vas pas sur LinkedIn ? Parce que t'aimes écrire, tu vas revenir à ça, en plus c'est une plateforme qui se développe énormément, franchement fonce, vas-y, va juste partager ce que t'apprends. » J'ai suivi son conseil, je suis allé sur la plateforme et j'ai juste commencé à partager ce que j'apprenais. Au départ, j'avais zéro ligne édito, je partageais ce qui me faisait kiffer. J'ai commencé en parlant de fiction. Donc vraiment, j'ai commencé en parlant de biais cognitifs que j'apprenais dans une formation, je faisais un like, j'ai fait de la fiction, j'ai voulu lancer une série de fiction sur LinkedIn, de science-fiction justement, et au final ça a floppé, mais au moins ça m'a mis le pied à l'étrier, et derrière j'étais frustré parce que j'ai commencé, quand je commence un truc j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de devenir le meilleur. Donc j'ai commencé à apprendre, j'ai demandé des conseils à Ulysse, à Benoît Dubos, à différentes personnes qui ont pu m'aider, qui ont pu finalement me dire tiens tu devrais peut-être faire comme ça, tu devrais peut-être faire comme ça. Et c'est Julie Refus, mais j'ai surtout eu des gens qui m'ont aidé, ça qui a fait la différence. Et à partir de ça, en analysant les posts des meilleurs, en publiant énormément, j'ai publié une fois par jour pendant plus d'un an et demi, à force, j'ai eu une croissance relativement linéaire qui m'a fait commencer à créer une petite audience, une petite communauté. Puis au fur et à mesure, quand tu vas m'améliorer, découvrir finalement que ce que je faisais parfois sans faire exprès et qui fonctionnait bien, c'était du storytelling, commencer à aller plus dans cette voie-là, à travailler ça. Puis au final, j'ai eu quelques mois plus tard mon pivotement vers l'IA. Où derrière j'ai pu me consacrer à fond à quelque chose sur du plus long terme et construire vraiment quelque chose avec lequel j'étais aligné. Parce que pour l'instant, globalement, même si je m'étais un peu orienté vers l'écriture, vers différentes choses, ça restait, je partage ce que j'apprends et ça reste très large. Mais là, grâce à finalement cette décision de me concentrer à fond sur ce sujet-là, de m'y investir, de m'y impliquer pour les prochaines années, j'ai pu me focus à fond sur un sujet, me faire connaître, pas qu'autour de ma personne, mais aussi autour de connaissances, autour de thématiques que je partage. Et c'est ça qui a fait la différence.
Okay, génial. Aujourd'hui, tu as plus de 30 000 abonnés sur LinkedIn qui te suivent au quotidien. Donc, tu disais que tu postais une fois par jour. C'est quoi aujourd'hui les contenus que tu postes? C'est quoi les sujets? Alors, je sais que tu vas me parler des IA, tu expliques les IA, tu parles des fonctionnements, tu fais aussi des tutos sur les IA, j'ai pu voir. C'est quoi ta ligne éditoriale aujourd'hui? Tu parlais de ligne éditoriale. Ouais.
Ma ligne éditoriale aujourd'hui, c'est déjà m'enseigner de mon côté, apprendre différentes choses. Et c'est mon but, c'est de permettre à n'importe qui de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle évolue, afin d'être capable de s'adapter et de finalement évoluer dans ce monde-là qui bouge très très vite. Donc je ne vais pas, par exemple, je ne suis pas du genre à partager les trois prompts ChatGPT pour faire X. Malheureusement, ça m'arrive parce que bah, c'est ce qui fonctionne et qui fait des likes, même si c'est à contre-cœur. Mais de temps en temps, j'en fais parce que bah, c'est ce qui fonctionne. Et ça fait quand ça fait 5 fois plus de stats qu'un post qui va plus rentrer dans le détail, qui va expliquer le fonctionnement d'un modèle ou comment ça se passe. Bon, bah, à un moment, c'est le jeu, faut aussi en faire un peu. Mais principalement, ça va être de rentrer dans le fonctionnement tout en essayant de garder finalement du storytelling et de garder une structure attractive parce que j'adore raconter des histoires. Donc, ça va être de raconter une histoire dans laquelle le lecteur va apprendre et mieux comprendre l'IA.
Je t'en rejoins complètement sur le fait que plus tu rentres dans la technique et plus tu es précis et moins tu fais de likes. Malheureusement, le reach fonctionne comme ça.
C'est pour ça qu'il faut réussir à faire du storytelling. Et en soi, j'ai déjà réussi, par exemple, c'était pas méga technique, mais l'histoire avec Sam Altman qui s'est fait virer d'OpenAI, etc.
Ça a reaché grave.
Une série Netflix. Bah, quand c'était bien fait, et en fait, j'ai fait un post, j'ai fait 2980 caractères parce que la limite c'est 3000. Et vraiment, je suis rentré dans le détail. En plus, le post, j'ai écrit très vite. Mais j'étais purement dans le fait de raconter une histoire. J'étais littéralement dedans et à fond dans ce truc-là. Bah, que le post était franchement excellent. Et d'ailleurs, bah, il a fait plus de 2000 likes alors que c'était pas vraiment putaclic globalement. J'essayais de rentrer plus dans le concret. J'étais pas juste en mode tiens, il s'est fait virer, théorie du complot. Non, j'étais en mode ok, pourquoi est-ce qu'il s'est fait virer là, c'est quoi le conflit d'opposition derrière d'idéologie entre les effectifs altruisme, entre au contraire ceux qui sont beaucoup plus amoureux de la technologie, on va dire, qui sont beaucoup plus pour l'open source, et plus rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Et quand on arrive à le raconter, et ben on peut rendre des sujets techniques finalement accessibles et intéressants à tous. C'est le cas par exemple, Léo Duff qui est le meilleur exemple de ça sur YouTube. Je sais pas si tu connais.
Pas du tout.
C'est un YouTuber qui parle de tech, qui aujourd'hui, je pense, est un des plus gros, qui fait le plus de stats, en tout cas, en parlant de tech, en parlant beaucoup d'iPhone, en parlant, par exemple, il a fait une vidéo « Comment est-ce que TikTok a baisé le cerveau d'une génération ?» qui a fait plusieurs millions de vues. Et il va réussir il va rentrer vraiment dans le technique, vraiment dans le concret, alors que, finalement, les personnes qui le suivent ne sont pas forcément des passionnés de technologie, ne sont pas forcément des nerds. Mais c'est super intéressant et ça se regarde extrêmement facilement parce que c'est l'une des personnes sur YouTube qui a la meilleure narration. Je le place actuellement dans le top 3 en termes d'écriture parce qu'il crée des histoires de zéro et il est complètement fou. C'est excellent en termes d'écriture. Et ça, il arrive à rendre intéressant à n'importe qui un sujet tech comme la matière d'un composant de l'iPhone. Ouais. Et t'as 400 000 personnes qui regardent une vidéo de 15 minutes là-dessus.
Incroyable.
Je trouve ça fascinant.
Incroyable. Comme quoi, le storytelling,
c'est la clé. C'est la clé. C'est génial.
Du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà utilisé ChatGPT pour écrire un post sur LinkedIn, par exemple? C'est le mythe de tous les copywriters. Est-ce qu'un jour, vous avez utilisé ChatGPT?
J'en suis pas mal servi à une époque pour faire mes premiers jets. Donc, c'était pas la version finale. Et c'était à une époque où j'avais un process qui était vraiment décomposé en plusieurs étapes, etc. Où c'était pratique. C'était la période où je travaillais le plus, passais le plus de temps pour chaque poste. J'avais vraiment un processus assez complet. Et finalement, avoir ce premier jet avec ChatGPT n'était pas vraiment gênant. C'était une étape du process. Donc, la qualité au final, ça dépendait d'autres facteurs.
Ouais, je te confirme.
Mais par contre, faire un post et le publier directement, ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait, mais ce serait pas vraiment utile. Là où par contre, c'est très fort, et j'ai déjà vu des exemples dont je ne citerai pas les noms parce qu'ils ont forcément envie d'être connus là-dessus. Quand on fine-tune un modèle avec l'écriture, avec beaucoup, beaucoup de matière, quand on a plusieurs centaines de posts à donner, qu'on fine-tune un modèle à écrire exactement comme soi, qu'on lui décrit une idée à l'oral, par exemple, en 30 secondes, une minute, là, le post est extrêmement bon et exactement dans le même style.
Ouais,
je connais des gens qui font ça sur LinkedIn, dont je ne dirai pas les noms, mais personne ne s'en rend compte. Et franchement, les posts sont vraiment très bons comme ça.
C'est ça, en fait. Plus tu donnes à l'IA des exemples de posts et de lignes.
Le fine-tuning, c'est tellement ce côté. Ouais.
C'est exactement ça. Ok, parfait. Donc, du coup, 17 ans, tu es rentré à l'ESSEC cette année, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu arrives à trouver le temps entre tes études? Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je passais mes journées sur les bouquins. Comment tu arrives à trouver le temps entre tes études, gérer ton LinkedIn, tes nouveaux réseaux sociaux que tu vas ouvrir là dans pas longtemps, ou même que tu as déjà commencé à ouvrir sur YouTube, ta nouvelle chaîne.
Sur côté d'autres projets, je peux pas parler.
plus des projets que je peux pas parler, tes enregistrements de podcast, comment tu arrives à gérer tout ça?
C'est une bonne question en fait, c'est pas moi, c'est l'IA à la place.
C'est ce que j'allais te dire, tu utilises l'IA à côté, c'est pour ça que je te parlais d'IA sur LinkedIn, mais même pas. Tu les écris toi en fait.
On rigole, avec la robotique, c'est quelque chose qui devient vraiment de plus en plus possible, et que ce soit en virtuel avec les avatars, avec du agent, tu connectes ça avec une API, un truc bien fine-tuné, ça se fait. C'est ça qui est effrayant. Mais non, pour l'instant, je ne le fais pas encore.
C'est pas encore du deepfake, c'est bien Théo Leblanc qu'on a demandé.
Ouais, bientôt. Le pire, ce serait vraiment faisable facilement. Mais c'est ça qui est effrayant. je dirais, c'est appliqué involontairement, mais à son paroxysme, les 20-80, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait énormément de trucs. Déjà, j'ai l'impression de jamais en faire assez, j'ai l'impression que je bosse relativement très peu. Et en fait, mes journées de travail sont pas si longues que ça, c'est peut-être quelques heures, ça va être entre du 4-5 et peut-être 8-9 heures, pas plus. Ce qui est pas mal, mais ce qui est pas énorme, sans compter que j'ai les cours Bon, je suis pas non plus le plus assidu en cours, on va dire. Mais,
on diffusera pas ça aux professeurs de l'ESSEC.
Dans tous les cas, ils le savent. Il y a les effets d'absence, mais je suis là aux examens, j'ai mes notes aux examens, ça fait le taf. Mais je dirais, c'est plus que finalement, je vais pas avoir le choix, comme j'ai plein de trucs à faire, que aussi j'ai très peu de temps pour les faire parce que j'ai différentes activités, parce que j'aime bien prendre mon temps pour faire des jeux vidéo, voir des potes aussi. Du coup, j'ai pas le choix que d'aller vite et potentiellement de faire uniquement la partie la plus intéressante. Et par exemple, mes newsletters, je me rends compte. C'est que même si parfois j'ai envie de faire un format très très long, bah, je me rends compte parce que par le temps ou quoi, que sur ce sujet-là, finalement, il va être plus court et parce que j'ai pas tant besoin d'en dire plus, alors qu'il y en a d'autres. Je pense là dans l'exemple, c'est que j'ai fait une newsletter extrêmement complète sur toutes les méthodes de prompting qui existent sur ChatGPT depuis un an, rentrer dans le détail du fonctionnement de ces méthodes-là et de pourquoi est-ce que ça fonctionne. Ça faisait plus de 50 000 caractères, ce qui n'est pas rien, que au final j'ai décomposé en deux éditions parce que c'était trop long. Et ça, alors qu'à la base je pensais en faire un truc plus court, bah, au final j'ai fait beaucoup plus long parce que c'était le truc là et j'ai pris un peu plus de temps, mais pas non plus tant de temps que ça. Et en fait, c'est plus réussir à gérer mon temps pour qu'il passe uniquement le temps dont j'ai besoin et appliquer finalement involontairement à son paroxysme tout ce qui est du coup, enfin, quand c'est Parkinson où tu prends le temps dont tu as besoin, Pareto avec les 20-80 et tu appliques ça à son paroxysme, que ce soit volontaire ou pas, et bah, tu n'as juste pas le choix en fait. Et tu fais.
Combien d'abonnés tu as à ta newsletter ?
Plus de 7000, quelque chose comme ça, 7500.
C'est génial, en très peu de temps du coup.
En très peu de temps, en quelques mois, surtout que depuis quelques mois, j'en parle pas trop en public parce que j'ai d'autres trucs dont je parle en public, comme Fria.
Justement, j'allais te dire comme Fria.
Comme une formation que j'ai lancée, que j'ai arrêtée aussi. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est que globalement, parfois, je faisais juste un post par semaine, mais qu'elle prenait 300 abonnés par semaine.
Alors, est-ce qu'on peut te parler un peu de tes revenus du coup à 17
ouais,
ans
ouais, bah, je vais être honnête, c'est très variable parce que je fais plein de trucs et que pour l'instant j'ai pas encore trouvé le business model. Enfin, je l'ai trouvé a priori, mais je l'ai pas encore lancé. Enfin, je vais pas parler publiquement, mais avant ça, j'avais pas trouvé le truc qui me permettait d'être stable. Donc, c'est variable, c'est entre du 5 et 25, 30 000 par mois, ça dépend des mois. C'est de CA parce que je dépense tout en fait en.
Tu as l'honnêteté de nous dire que c'est du CA parce que je connais pas mal de monde qui monte que le CA et qui monte pas aussi
bah,
la
enfin, non, c'est, alors. C'est de la marge, mais c'est pas du bénéfice parce que c'est de la marge, mais que je réinvestis tout dans finalement dans mes prestataires. Là ce matin, je viens de signer un contrat qui va me coûter 3000 euros par mois pour gérer du coup toutes mes conférences, gérer le fait de pouvoir avoir plus de monde, etc. Avec une agence de relations presse et de talent management, je paye 1500 euros par mois une agence pour gérer le Discord Fria, on parlera pour avoir une meilleure expérience là-dessus. J'ai dépensé 15 000 euros pour différentes features sur le serveur pour avoir une meilleure expérience. Donc au final, je réinvestis quasiment tout. Ce qui fait qu'en revenu pur, et j'ai la chance d'ailleurs, c'est pour ça que je peux me permettre parce que je suis jeune, que j'ai la sécurité de mes parents, que ça va, ils n'ont pas de problème financier ou quoi, je peux me le permettre, j'ai cette chance-là. Mais du coup, j'en profite en investissant le plus possible sur mon futur.
Comment t'as 17 ans ? Enfin, moi, à 17 ans, je jouais au Five avec mes copains ou à la PlayStation par exemple. Comment à 17 ans, tu me parles de revenus, de CA, de marge, de médias, de presse Comment ça t'est venu tout ça ?
J'arrive pas à intégrer. J'ai des parents entrepreneurs.
Voilà. Ouais, mais pas que, c'est pas que ça, c'est pas possible. Comment voilà, t'es tombé dedans ? Comment
bah, je suis tombé dedans grâce à ça. Je suis tombé dedans grâce à mes parents. Après, à l'époque, enfin, du coup, mes parents viennent du monde des ESN, viennent de ce monde très finalement corpo. J'ai découvert le business en ligne avec à mes 12 ans. Grâce à mon frère, grâce finalement aux formateurs en ligne, tout ce qui est Tugendbara, Jean-Marie Corda, les FDPH se reconnaîtront. Cette appellation, c'est très drôle parce que cette communauté-là, quand tu connais quelqu'un, quand tu croises quelqu'un, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne pense qu'on en fait partie. Quand tu croises quelqu'un et que tu lui en parles et que tu vois ses yeux s'illuminer, il y a un biais d'appartenance. Je ne connais aucune communauté qui a un biais d'appartenance comme celui-là. C'est hilarant.
Alors je rebondis sur les communautés, tu me tends la perche. Fria, du coup, Fria. Qu'est-ce que c'est que Fria, du coup ? Parle de Fria.
Ouais. Fria, c'est mon projet sur 5 à 10 ans, c'est de bâtir l'espace, finalement, la communauté, mais je suis en train de réfléchir au bon terme. Je ne pense pas que communauté soit le bon terme, mais on va dire la plus grande communauté francophone sur l'IA pour permettre à n'importe qui, enfin pour rendre l'IA accessible à tous, à travers finalement un espace où les gens peuvent apprendre, où les gens peuvent partager les dernières choses qu'ils ont découvertes, où les gens peuvent poser leurs questions, où les gens voilà, peuvent discuter entre eux à propos de l'IA, etc., peuvent tester des outils directement à travers des intégrations, à travers un petit Midjourney gratuit qu'on a réussi à plugger, c'est une petite astuce. Voilà.
On ira voir sur le Discord directement. On ira voir sur le Discord directement. Je ne suis pas responsable.
Donc c'est ça le but, c'est permettre à n'importe qui finalement, quel que soit son niveau, que ce soit un expert, que ce soit un débutant, que ce soit un mec qui commence à y toucher un peu, de pouvoir finalement continuer à apprendre et de partager sa passion, partager ses découvertes avec d'autres personnes.
Bon bah on mettra le petit lien pour Fria pour pouvoir rentrer sur la communauté, c'est gratuit hein, tu
nous. C'est gratuit bien sûr, c'est une communauté entièrement gratuite. Génial. On vise plusieurs centaines de milliers de membres donc forcément. Génial. Que c'est gratuit.
Aujourd'hui on est autour des 4500 membres.
C'est ça à peu près 4000. Je pense d'ailleurs là-dessus, la prochaine étape potentiellement, ce sera d'en faire une sorte de Duolingo de l'IA, parce que c'est un modèle qui est plus simple à mettre en place et qui pour l'instant parle plus aux gens, pour ensuite en faire un plus un gros espace. Voilà, on verra d'ici quelques années comment ça évolue.
Bon, alors dans le podcast, tu sais très bien qu'on reçoit beaucoup de chief data officers de grands groupes français, internationaux. Tu as un profil un peu différent, c'était volontaire. Comment tu vois l'avenir pour les grands groupes avec l'arrivée de l'IA générative?
C'est ceux qui vont pas l'appliquer vont se faire bouffer par ceux qui en profitent à fond. Simplement, c'est que la révolution de l'IA, en fait, faut se rendre compte que Internet a été la dernière très grosse révolution, que les boîtes qui ont pris ce tournant-là, qui sont allées à fond dessus, finalement, ont réussi à énormément se développer, qu'on voit aujourd'hui, si on regarde le top 10 des entreprises les plus valorisées en bourse ou n'importe où, il y en a quelques-unes qui sont dans la gestion de ressources fossiles, dans le pétrole, tout ça, mais la majorité, elles viennent d'Internet, elles viennent de la tech. Là, c'était une révolution seule. Actuellement, on est en phase, on arrive du coup, alors le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'une révolution d'ailleurs, on parle beaucoup d'IA parce que c'est le sujet principal dans notre région finalement géographique, mais il y a la robotique en même temps, il y a la cybernétique et le transhumanisme. Ces quatre pans-là qui vont finalement être une grosse révolution à peu près dans les mêmes échelles, dans l'ordre ce sera un peu différé, mais à peu près dans la même échelle de temps qu'on regardera après coup, c'est les quatre finalement grosses révolutions qui se passent en ce moment et qui vont faire qui vont faire la différence, qui vont créer les géants de demain. On voit OpenAI, peut-être qu'OpenAI sera au même niveau que un Microsoft demain et finalement le petit mangera, enfin dépassera l'élève dépassera le maître. On voit finalement il y aura encore potentiellement plein de boîtes qui vont se développer à partir de ça, qui vont créer des géants et qui seront dans 10, 20, 30 ans les prochains GAFAM. Donc les grands groupes, soit finalement vont s'adapter, et par exemple Microsoft le fait extrêmement bien,
Oui.
Avec un développement externe, enfin un développement avec l'acquisition qui est extrêmement intéressant, et Satya Nadella est exceptionnel dans ce rôle-là. Je pense que dans quelques années, voire dizaines d'années, on se rappellera de lui surtout au niveau de Microsoft, sur ce développement-là, qui est fascinant. Sur leur acquisition externe, c'est dingue entre eux. Finalement, on en parle, oui, OpenAI, mais pas que. Il y a du GitHub, il y a tous les différents outils qu'ils ont achetés, qu'ils ont intégrés. Donc, on n'est même pas le nom. LinkedIn, entre autres, mais il y en a plein.
Donc, c'est un train qu'il faut prendre. Si on ne le prend pas, on est.
Bah, c'est pas qu'il faut le prendre, c'est qu'en fait, soit on le prend, soit on reste derrière et qu'il y a le feu qui court derrière, quoi. Je vois ça un peu comme. je sais plus le nom de la série. Le train dans la neige, dans le monde gelé.
Non.
Le Frost, quelque chose. Le Snowpiercer, merci. Ou finalement, soit on prend le train et on continue d'avancer, soit finalement il y a le froid partout autour. Et alors c'est pas vraiment la même chose, mais finalement il y a la vague du passé qui arrive, quoi. Et soit on reste dans le passé, soit on continue d'avancer.
Très bien. Donc on va tous prendre la vague. On a reçu le message. Du
Faut
coup, si on reste
sur la bonne planche de surf.
Voilà, exactement. Si on reste sur les grands groupes, est-ce que tu as déjà formé des personnes au sein de ces entreprises? Est-ce que tu as pour but de les former?
Ouais, j'ai déjà fait pas mal d'interventions, c'est un exercice que j'aime beaucoup, les interventions, les conférences, ce genre de choses finalement, avec un vrai objectif d'évangélisation de l'IA. On va pas rentrer dans l'intégration, ça je le fais aussi, mais je le délègue. Mais vraiment, aller former des grands groupes sur le fait de directement leur expliquer, ok, déjà, qu'est-ce que c'est l'IA, à quoi ça sert. Et d'ailleurs, leurs grands enjeux, leurs grandes problématiques principales, c'est est-ce que c'est dangereux en termes de sécurité, notamment au niveau
Bien
des
sûr.
données. C'est un énorme enjeu. Il y a énormément de boîtes qui ont des enjeux de sécurité, des enjeux assez touchy. Pas forcément dans des domaines comme l'armement ou ce genre de choses, même si ça concerne aussi, mais également dans des domaines de tous les jours. Quand on manipule des données de centaines de milliers de personnes, ouais, c'est sensible, il faut faire attention dans les outils qu'on utilise. Et c'est là où finalement ça va aussi être mon rôle d'expliquer, ok, voilà comment est le paysage aujourd'hui, voici quels sont les risques, voici comment est-ce qu'on peut s'en protéger à peu près plus ou moins, et voici comment est-ce que vous pouvez mettre en place, que vous ne pouvez pas mettre en place parce que c'est pour l'instant trop dangereux ou pas assez développé, trop expérimental. Donc c'est ça finalement le rôle que je vais avoir auprès des entreprises, leur permettre de rentrer dans le bain, mais avec une combinaison intégrale de protection.
Et alors, ils ont besoin de Théo Leblanc pour se former, ou ils peuvent se former directement en interne avec les formateurs classiques? Pourquoi ils choisiraient Théo Leblanc et pas quelqu'un d'autre?
Ça dépend. Ils peuvent passer par n'importe quel autre formateur, mais je dirais il y a deux points. Le premier, c'est que soit on passe par un ingénieur, sauf que le problème d'un ingénieur, c'est qu'il baigne dans ce milieu-là depuis 20 ans, donc ils ne comprennent pas que les gens
ans,
ne puissent
exactement.
Pas connaître. Et le problème d'un ingénieur aujourd'hui, c'est pour ça que je m'entoure beaucoup d'ingénieurs, mais parce que c'est hyper intéressant, qu'ils ont beaucoup plus de connaissances techniques. Je sais que j'ai des lacunes techniques que je compense au fur et à mesure. Mais ces ingénieurs ne connaissent pas, c'est rare qu'ils se rendent compte du niveau de leur auditeur en face. Et c'est la problématique. C'est là où, du coup, d'ailleurs, c'est comme
de
ça
se
que
mettre au niveau, en fait, de son interlocuteur.
C'est ça. Comme je suis passé par la phase de n'y connais rien, je peux comprendre à quel stade en sont les gens en face. Et du coup, je peux m'adapter pour mieux vulgariser. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que quand on cherche aujourd'hui à se former, le truc, c'est que, particulièrement dans un milieu qui se développe énormément, il y a tout. Il y a énormément d'offres. La quantité d'offres est complètement démesurée parce qu'il y a une demande, tout le monde en demande. Donc, il y a énormément de gens qui se placent dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir qui est pertinent ou pas. Il y a plein de gens qui sont très pertinents. Le seul truc, c'est que généralement, quand on veut passer par quelqu'un, c'est bien quand on a un engagement, quand on a finalement un moyen d'être sûr. Généralement, ça passe par de la recommandation, ça passe par une image publique, mais ça peut aussi passer par le fait que, ok, la personne est publique, si jamais elle fait de la merde, bah, elle se fait détruire en ligne. Et si jamais, voilà, et du coup, c'est mon cas, je sais que si demain je fais une intervention, par exemple, ou je fais n'importe quoi, ou si jamais je donne un conseil qui s'avère être faux et je mets en danger, je mets en péril la sécurité de l'entreprise, bah, je suis fini. Mm-hmm. En fait, je suis complètement fini. C'est pour ça que je dois faire super attention, c'est même plus dur. Mais c'est le jeu. C'est...
Ouais, donc ton auditoire, en fait, valide, met un tampon sur le fait que t'es
bah, pas, t'es mais c'est plus, en fait, que j'ai tellement à perdre si jamais je faisais une erreur que je peux pas me permettre. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, je refuse parfois des missions, différentes choses qu'on me propose parce que je suis pas sûr, probablement que je pourrais le faire, mais je suis pas certain. Mmh. Dans le doute, je prends pas le risque parce que j'ai trop à perdre.
T'as raison. Non, mais t'as raison, c'est une bonne approche. Si on parle un peu d'IA, du coup, c'est le sujet de Deep Talk.
C'est quand même le sujet à la base.
C'est quand même le sujet de Deep Talk. On a fait une grosse partie sur l'introduction sur ton profil. Si on parle un peu d'IA, alors il y a plein d'outils qui utilisent. Si par exemple, je suis tout nouveau, j'écoute le podcast, j'ai bien compris qu'il fallait que je me mette à la page. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent oui, il faut absolument que je me mette à l'IA. Par quoi faut que je commence? Je crée un compte sur ChatGPT, je crée un compte sur Midjourney. Quels sont les petits conseils que tu donnerais aux gens qui n'ont jamais touché à ça et qui sont aujourd'hui 2024 et qui ont envie de se lancer dans l'IA? Première étape.
Première étape, ça dépend. Si la personne est assez déterminée et motivée, commencez par lire les documentations.
Alors ça va être plus compliqué parce que tu connais les gens sont feignants.
C'est pour ça, ça dépend. C'est pour ça si les personnes ont déjà compris. Ok, c'est si les personnes ont déjà compris l'intérêt de l'IA et veulent vraiment parce que savent que c'est utile, mais veulent se apprendre. Dans ce cas-là, aller lire les documentations des gros outils parce que on n'en parle pas du tout. Mais globalement, la majorité des astuces, des différentes choses qu'on a, soit c'est par l'expérience et ça, on peut obtenir les astuces des autres, mais ça se remplace jamais vraiment. Ou alors pour aller plus vite, c'est que ça vient des documentation et qu'en fait les personnes qui créent les outils souvent savent qu'est-ce qui fonctionne mieux ou pas sur leurs outils ou enfin rajoutent finalement les retours de la communauté. C'est eux qui gèrent l'outil donc ils voient très bien comment est-ce que les utilisateurs s'en servent le mieux. Donc dans les documentations c'est là où on peut trouver la majorité des meilleures astuces ou au moins les astuces générales qui vont permettre d'arriver à un niveau de 60, 70, 80% finalement de très bons résultats avec un outil. C'est les 80% finalement qu'on va obtenir avec le 20% de temps uniquement à lire et à comprendre des documentations, ce que je trouve complètement fou. Maintenant, si jamais on n'est pas encore conscient de okay, à quel point est-ce que l'IA peut me servir, je trouve ça pertinent d'aller voir plus du coup du storytelling, on va dire, pour se motiver. Enfin, c'est paradoxal, mais aller voir, concrètement, l'IA, c'est essayer de mieux comprendre l'IA, mais pas par l'approche technique, plus par l'approche purement finalement, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi est-ce que c'est ouf. Et aller chercher, il y a plein de vidéos, il y a plein de documentaires qui peuvent regarder ce genre de choses finalement, qui vont permettre d'introduire doucement au concept, qui vont permettre finalement de s'intéresser au sujet sans devoir passer par une phase dure de technique ou quoi, parce que, enfin, ça viendra forcément, mais parce qu'on peut rentrer progressivement dans le bain avec du contenu qui a été pensé pour être divertissement. Donc qui est sur le sujet et qui introduit différentes notions techniques, mais qui reste du divertissement pur à la base. Je pense à toutes les vidéos en mode j'ai entraîné cette IA à jouer à X, j'ai réalisé une IA qui fait machin, etc. Ou même simplement un documentaire qui va être fait, je sais pas qu'il y en a encore, je pense que ça viendra bientôt dans les prochaines années, mais des documentaires qu'on va avoir sur OpenAI, sur Midjourney, ou simplement sur les IA qui existent depuis des dizaines d'années dont on parle pas, sur un documentaire sur les algorithmes de recommandation, les algorithmes c'est de l'IA. Plein de choses comme ça qui vont permettre au fur et à mesure de prendre conscience de l'impact qu'a l'IA et de l'intérêt, et là ça va permettre de plus facilement passer à la prochaine étape et de se former.
Donc se documenter, regarder les vidéos.
Si jamais de base on comprend pas déjà à quel point, enfin quel rôle, quel intérêt a vraiment l'IA, je trouve c'est un peu, enfin on peut pas directement dans la partie technique, mais on a de fortes chances d'arrêter, surtout de pas comprendre à quoi ça sert ce qu'on fait. Donc autant passer par une phase plus agréable, on va dire, de passer par du divertissement pour finalement s'ouvrir à tous ces usages là, à toutes ces possibilités là. Plutôt que de vouloir se dire « Non, j'y vais dans le dur, forcément. »
Si je dois te demander aujourd'hui quelle est la dernière découverte que tu as faite avec les outils, alors ça serait quelle découverte stylée que tu as pu faire sur les derniers outils?
Ça vient pas de moi, ça vient d'un ami, Shubham Sharma, je ne sais pas si tu connais, qui est sur les qui est lui qui est très sur les automatisations, sur Notion, qui est le mec de Notion sur YouTube, et qui s'intéresse beaucoup à l'IA forcément aussi, qui est un dev à la base. Très bon ami, et qui a découvert récemment un outil open, enfin un projet open source qui, c'est-à-dire, a été décliné en outil, a été fait sur une boîte. Cet outil-là, enfin ce projet, tu télécharges le projet, etc. En fait, quand tu le lances, tu définis la tâche que tu veux réaliser. Imaginons, je sais pas, je veux faire une analyse, rédiger, je sais pas, une newsletter sur X sujet. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le contrôle de ton ordinateur, il va prendre un screenshot. Selon du coup ce screenshot, il va déterminer grâce à GPT Vision, il va déterminer ok quelle est l'action à faire pour arriver à mon résultat, etc. Et en fait c'est un combo entre AutoGPT qui va être capable de réfléchir aux actions qu'il doit faire et GPT Vision donc qui est capable de regarder qu'est-ce qui se passe actuellement sur ton ordinateur et en plus d'effectuer des actions, donc taper du texte, cliquer à un endroit, etc. Donc théoriquement, alors pour l'instant c'est expérimental, on peut commencer à faire deux trois trucs sympas, mais c'est pas non plus le démon. Mais ça commence à être sympa, on voit quelques trucs sympas. Théoriquement, on pourrait dire finalement à l'IA, tiens fais ça. Lui donner notre ordinateur, qu'elle le fasse toute seule. Donc, pour créer une ferme avec plein d'ordinateurs, et l'IA qui le fait automatiquement. Donc, tu vois, toutes les sortes de fermes où c'est des. Je sais plus comment s'appelle le site, mais où tu as des sites où tu peux déléguer à des Pakistanais ou genre de choses, finalement, les actions qui valent pas grand chose, mais qu'on peut pas encore déléguer. Bah, maintenant, on va faire des fermes de. Pas, de, des, pas des fermes d'humains, mais des fermes de machines, quoi, d'ordinateurs, machine, ouais. qui travaillent tout seuls.
Génial, super, tu nous donneras le lien.
Ça ouais, m'intéresse. C'est la dernière vidéo de Choubam Sharma, tu pourras la mettre en description.
Génial. Bon, le marché va être vraiment chamboulé, on l'a bien compris, avec le développement des IA. Avec
mais
les...
attention à ne pas faire une erreur, c'est que là où Internet, par exemple, était une révolution dans le sens où c'était un nouveau domaine, les IA sont une révolution dans le sens où ça, c'est une amélioration en termes d'efficacité, c'est une amélioration sur tous les marchés, où finalement ça va augmenter la production et la productivité de toutes les personnes sur les marchés déjà existants. Et il faut faire attention, ce n'est pas exactement la même chose. C'est plus comparable à la révolution industrielle, par exemple, qui est intervenue dans les marchés déjà existants, mais qui a décuplé la production, plutôt que par rapport à Internet, qui est complètement un nouveau domaine.
Justement, du coup, en termes de nouveaux métiers, est-ce que tu ne penses pas qu'avec ces IA, il y a des métiers qui vont disparaître ? D'ailleurs, je me pose la question si je peux devenir menuisier, parce que moi, je sais que l'IA ne va jamais me remplacer, ou charpentier, par exemple. Est-ce que, d'après toi...
C'est optimiste, ça. tu ne prends pas en compte les robots, là.
Oui, c'est vrai qu'avec les robots, mais on n'y est pas encore. J'ai vu des essais, ils ont encore un peu de mal, les robots, avec...
Ah, au Japon, c'est pas mal. Hein. On n'en a pas besoin en Occident, c'est pour ça.
Ça doit coûter super cher, en plus.
Pas
je pense
ça.
À produire. À vérifier. Bon.
Enfin, je sais qu'au Japon,
tu mises sur les robots d'ici 2024.
Alors, ça dépend où. En Occident, pas trop, parce qu'on a trop de main-d'œuvre. Enfin, relativement, on a des taux de chômage, etc. On a le problème, on veut créer des emplois. Alors que l'emploi, c'est censé résoudre un problème. Il y a quand même un truc assez paradoxal. Par exemple, en Asie, enfin, particulièrement au Japon, ou en Corée du Sud, ou en Chine aussi, où on commence à avoir ce problème-là, où il y a un problème démographique qui manque de main-d'œuvre.
Ouais.
Bah, bizarrement, la robotique, elle va beaucoup plus vite. Donc,
forcément.
Bah oui, et là-bas par exemple, ça devient assez, enfin ça devient déjà commun dans ce que je sais, ça devient déjà possible d'avoir des serveurs robots, etc., mais qui existent déjà depuis quelques années.
Ouais, ça j'avais
et
déjà ça, vu. Voilà.
C'est ce qui est complètement fou.
Ménage robot,
on a des,
exemple,
on a des, ou... voilà, on a déjà des robots qui existent, qui sont au quotidien et qui sont autonomes, enfin relativement autonomes. Donc.
Alors finalement... après, j'ai toujours un peu peur des robots parce que je vois toujours l'exemple de Tesla avec la voiture autonome. J'ai encore vu un article la semaine dernière où il y a eu énormément d'accidents et des voitures qui ont été rappelées, donc. À vérifier.
Oui, mais par rapport à l'humain.
Je vois bien le serveur te faire tomber le plateau. Ou
bah, c'est comme, je me suis amusé là-dessus sur ma dernière vidéo YouTube où c'était sur les domaines d'analyse d'urgence où finalement on servait, on testait finalement un outil, enfin, je ne sais plus si c'était GPT ou c'était un autre, pour directement analyser, ok, quel est le. Enfin, faire un diagnostic du problème. ChatGPT avait 97% de réussite. Donc ça fait 3% d'erreur. C'est beaucoup. C'est beaucoup 3%. On peut se dire, bah non,
sur
c'est
un diagnostic
possible.
Médical.
Voilà, sur un diagnostic, on ne peut pas le mettre en place. À ton avis, c'était quoi le pourcentage des réussites des humains ?
Oh, je pense que c'était beaucoup moins. T'as 90%. 87 ?
Voilà.
Ouais, j'étais à 90.
Voilà. Donc ça, je trouve ça fascinant. Mais comme c'est, en fait...
comme c'est un humain, c'est pas grave, on pardonne.
Bah, l'erreur est humaine. Hein.
Ouais, c'est ça,
mais,
voilà, le fameux slogan.
Mais quand l'erreur concerne des centaines de milliers de centaines de millions de vies, c'est plus compliqué. Mais c'est la problématique, en fait. C'est que, oui, il y a des erreurs, mais l'humain aussi. En fait, c'est pas le... L'enjeu, c'est pas est-ce qu'il y a un pour un millième d'erreur. Bah, en fait, ça fera toujours plus parler parce que c'est un robot, etc. Donc, on en parle plus parce que c'est extrêmement pratique pour ceux qui veulent avoir un lobby anti-IA ou anti-robot pour X raisons.
Tu viens de comparer le nombre d'accidents de voitures causés par les humains, du coup.
C'est ça. Enfin, oui, il y a des accidents causés par les voitures autonomes et c'est pour ça qu'on n'aura jamais de voitures 100% autonomes.
Ouais.
Combien est-ce qu'il y a d'accidents causés par des humains ? Ça, c'est... D'ailleurs, souvent, les accidents causés par les IA sont à cause d'humains qui ont un comportement bizarre.
Oui, sur la route, exactement.
Voilà. Donc,
si on avait que des voitures autonomes,
il y aurait aucun accident.
Que... Ouais, bah oui, parce que tout le monde fonctionnerait pareil. Intéressant, mais bon. Non, mais c'est intéressant. D'accord. Donc, du coup, alors je reviens à ma question même, parce que je suis resté menuisier en attendant. Dans 10 ans, avec le développement des IA, qu'est-ce qui va être disrupté à ton avis ?
Déjà, tous les métiers, enfin, la grosse masse de métiers intellectuels qui ne fait pas partie du top 1% de ces domaines-là va être remplacée parce qu'il ne va plus servir à rien. Le top 1% sera toujours là, parce que d'ailleurs, ce sera à partir d'eux qu'on entraînera les IA.
D'ailleurs, Meta recherche des experts sur tous les métiers. Bah, chimistes, scientifiques, mécaniciens.
Mais Meta, ils font des IA dans tout. C'est assez fascinant. Mais c'est pour ça que les 99% restants, tous les freelances sur Mal qui sont à 20 euros de l'heure, toutes les personnes, les consultants classiques en agence de communication, etc., vont se faire remplacer parce que bah, les IA feront mieux, en fait.
Et c'est plus rapide. Mieux, plus rapide,
plus rapide, etc., coûteront beaucoup moins, elles vont pas se plaindre, elles vont pas se plaindre quand elles auront des heures sup, elles vont bosser 24 heures sur 24, il n'y aura pas d'arrêt maladie, il n'y aura pas d'arrêt de grossesse ou quoi que ce soit, il n'y aura pas d'arrêt d'essai, c'est triste, mais finalement, c'est hyper, relativement hyper intéressant d'un point de vue uniquement capitaliste. Donc, et pourtant, c'est pas un mal, au contraire, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire, quand même, il faut se rappeler qu'un métier, ça a pour but de résoudre un problème. Si jamais on résout le problème, enfin si jamais il n'y a plus de métier, ça veut dire qu'on a résolu le problème et qu'on peut passer à un autre problème. Je pense qu'on n'en manque pas.
C'est ça.
C'est globalement, on a plein de problèmes, que ce soit l'écologie, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit les problèmes humanitaires, que ce soit les problèmes de santé mentale. Il y a une infinité de problèmes.
On a vu sur les cristaux, par exemple, les IA qui ont fait...
C'est une dinguerie, mais
c'est un truc de fou. Tu peux nous en parler.
L'IA Gnome de Google qui a finalement fait gagner 700 ans dans la recherche sur les découvertes de nouvelles matières. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle matière, on se dit, bah tiens, peut-être que c'est la nouvelle matière supraconductrice qui va révolutionner le monde de l'énergie, qui va permettre de créer des batteries bien plus importantes. Bah, ça, c'est sur une échelle de quelques années. On vient de gagner 700 ans. Bon.
Du coup, on a d'autres problèmes maintenant à gérer.
C'est ça. Bah, il y a le problème de, OK, comment est-ce qu'on gère ça? Et ensuite, si jamais on trouve un matériau supraconducteur, OK, comment est-ce qu'on le met en place? Il y aura toujours des problèmes. Et si on les résout, c'est bien. Ça veut dire qu'on avance. Et c'est pas parce que s'il y a toujours des problèmes, c'est pas pour autant dire que la situation est toujours la même ou être pire en pire parce qu'il y a plus de problèmes. Non, ça veut dire qu'on avance, que si on... enfin, l'humanité progresse au fur et à mesure. Que le, par exemple, c'est le niveau social. Le meilleur exemple de ça, c'est la, les gens confondent être la richesse et confondent la richesse et le statut social. Enfin, confondent l'argent et le statut social. C'est que quelqu'un qui devient riche ne va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Il va ajouter de la production. Par contre, il prendra la place dans l'échelle sociale. Et souvent, c'est ça qu'on jalouse. Et c'est la même chose là-dessus. C'est que quand on remplace des métiers et qu'on crée de nouveaux problèmes, en fait, la situation est mieux. On produit plus. On est capable de résoudre plus de problèmes. Par contre, l'échelle finalement des problèmes et la manière dont on le voit reste la même. Notre perception reste la même parce qu'il y a toujours autant de problèmes. Et donc c'est un problème, c'est un bien mental. Et parce qu'on sait, on a besoin d'avoir cette échelle-là pour continuer à avancer, continuer finalement. Si on se dit, OK, bah, on a résolu le problème, on fait quoi maintenant? Bah, on s'amuse. Bon, il y a toujours des trucs, on a toujours envie d'avancer. C'est aussi, voilà, on est une espèce qui veut quand même, une espèce humaine, enfin une espèce naturelle qui veut proliférer, qui veut se reproduire. C'est normal, c'est, biologiquement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, mais il faut quand même se le rappeler. Que finalement, quand on a l'impression que c'est au même niveau qu'avant, voire c'est pire, qu'on a l'impression que les riches prennent la place des pauvres, etc. Non, c'est un biais. C'est qu'ils prennent la place dans le statut. Peut-être que le problème mineur devient le problème majeur maintenant parce qu'on a remplacé l'ancien problème majeur. Mais pour autant, ça reste un avancement.
Du coup, on détruit des emplois, mais on en crée aussi, ce que j'ai bien compris. Et même on transforme, même, j'ai envie de dire.
Mais forcément, en fait.
On se transforme et du coup, on crée de nouveaux emplois.
Je trouve parler de création d'emplois, c'est quoi? C'est même idiot que ça, c'est pas le bon terme parce que on crée pas des emplois, on a un problème qu'avant on pouvait pas résoudre et maintenant on se dit bah tiens, on a de la main d'œuvre, on va peut-être la mettre dessus.
Ok, donc, pas mal, je vois.
Le terme création d'emplois, je pensais pas adapté. On se rend compte d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une destruction d'emplois. Tiens, il y a bizarrement quasiment autant d'emplois qui vont être créés. Belle coïncidence.
Ok. J'imagine, au vu des nouvelles actualités sur les IA, t'as vu la création de Mistral.ai qui est impressionnante, fait par 3 Français d'ailleurs.
Ouais, pour une fois qu'on a un peu de souveraineté française.
Alors qu'ils ont travaillé aux États-Unis avant quand même.
Hein. Oui, bah forcément.
Mais bon, ils sont venus avec leur
belle
idée.
C'est prof.
c'est ça le problème, chercheur. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de la course à la donnée dans l'injection et dans l'entraînement des modèles? On voit aujourd'hui que c'est une bonne question parce que on se pose la question, est-ce qu'il va falloir sur ChatGPT 4, sur ChatGPT 5? 4.5, pardon, sur ChatGPT 5, il va falloir mettre encore plus de données. On parle de pétadonnées, pétaoctets, de téraoctets.
Non, c'est une erreur.
Par rapport à l'écologie, c'est une catastrophe.
Ah, je pensais même pas à ça.
J'ai parlé tout à l'heure d'environnement.
On va couper ça.
Mais, non, mais si tu veux, quand on voit que Mistral AI est capable de faire aussi bien qu'un Llama 2, par exemple, avec
il
moins de données.
Je sais plus combien ce qu'il fait de millions de paramètres, enfin de milliards de paramètres.
C'est 100 000 millions, je crois, de paramètres sur.
100 000 millions
100 000 millions, ouais. Genre, okay. De données. Ce qui est beaucoup moins qu'un ChatGPT 4.
Bien sûr.
En fait, avec des performances qui sont aussi bonnes. Donc, est-ce que tu vois, les évolutions en 2024 plutôt en termes de course aux données, un peu comme il y avait eu la course au méga, la course au giga à l'époque sur les téléphones ou sur les microprocesseurs? Ou est-ce que tu vois justement plutôt des choses un peu plus structurantes, intelligentes qui permettent d'améliorer?
Je pense qu'on aura une polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire la différence entre le nombre de paramètres et la capacité du modèle. Le nombre de paramètres, ça va être, pour la faire très courte, le nombre d'informations différentes que va avoir ce GPT. Il faut que va avoir n'importe quel modèle. Par exemple, c'est pour ça qu'avec 200 milliards de paramètres, il va être capable de parler de plus de sujets à peu près au même niveau qu'avec seulement 8 milliards, il va être plus limité. Le meilleur exemple là-dessus, c'est sur tout ce qui concerne les sciences, les maths, où les plus petits modèles ont beaucoup plus de mal, parce qu'ils ont moins d'informations et c'est pas la priorité. Surtout pour des démos et ce genre de choses, c'est pas du tout la priorité. Mais par contre, il faut se rendre compte que la capacité de génération du modèle et la qualité de ces générations ne va pas être dépendante du nombre de paramètres, mais de la qualité des données. Et c'est pour ça qu'on se dirige de plus en plus vers des tout petits modèles avec des très très bonnes qualités, des très très bonnes données, parce que justement, on arrive à avoir des très bons résultats plus spécifiques, on a des résultats potentiellement larges, c'est pas aussi polyvalent que ChatGPT, mais par contre, on est capable de le faire tourner en local sur un petit ordinateur, ça consomme moins de ressources, ça veut dire que derrière, on peut entraîner des modèles beaucoup plus rapidement, il faut quand même se rappeler que ça prend du temps, que ça coûte moins cher, ça coûte quand même très cher d'entraîner des modèles, on peut beaucoup plus faire joujou, on peut beaucoup plus s'amuser, et donc on peut aller beaucoup plus dans des niches. Parce que si on a un petit modèle, que ça nous coûte que quelques centaines d'euros à faire un modèle vraiment spécifique, à faire plus que du fine-tuning, vraiment un vrai modèle dédié, ce sera plus simple avec un modèle à seulement 4-8 milliards de paramètres qu'avec un modèle à 200 milliards.
Donc, c'est sur ça qu'on se dirige. Ça, l'open source ça, aussi
C'est parce qu'on va vers l'open source que les modèles se réduisent. Parce que pour des entreprises privées, alors c'est aussi bien d'avoir une réduction des coûts, mais elles ont les moyens d'avoir des modèles à 200 milliards et de jouer avec. Des mecs qui vont s'amuser sur Ringface, qui vont développer leur propre outil dans leur coin, ils n'ont pas les moyens. Par contre, sur un modèle à 8 milliards, un modèle même à 16 ou 32 milliards, c'est plus accessible déjà. Et c'est l'intérêt, c'est pour ces personnes-là, de pouvoir justement, en fait, là, ce que font les géants avec ces petits modèles, avec la conception finalement même de méthodes avec Mistral, on le voit, qui permettent de réduire la taille en gardant des bonnes qualités, en gardant un panel assez large, c'est qu'ils donnent les clés, ils donnent les outils à finalement la populace, à tout le monde qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'amuser dans des domaines dédiés. Je sais pas, il y a un mec qui va être fan en IA, mais qui va être fan... d'un truc d'histoire hyper spécifique, il va être fan des batailles, je sais rien, il va être fan de l'histoire militaire de tel pays, mais il va pouvoir peut-être, l'histoire militaire tout court, développer une IA qui va être dédiée là-dessus, qui va avoir une utilité, j'en sais rien, pour de l'histoire ou pour de la cohérence, peut-être, sur de la cohérence historique, sur des récits, même sur de la fiction. C'est parce qu'il y aura ces modèles qui auront été mis par disposition, c'est un truc qui n'aurait jamais été fait par des grosses entreprises parce que l'intérêt est relativement faible, mais pour un passionné, ils lui ont donné les clés, et il y a des milliers de passionnés qui vont s'amuser, qui vont créer des trucs hyper spécifiques, mais géniaux. Et c'est ça qui est vraiment génial.
Super, je vois ta vision, ça fait rêver pour 2024.
Que 2024.
Un peu plus, sur les 5 prochaines années.
C'est ça, exactement.
Tu sais que je dirige le cabinet du coup Unique, tu parlais de SN tout à l'heure. Si tu dois donner un conseil à tous les consultants Unique, et à tous les consultants, pas que Unique, tous les consultants des cabinets et tous les consultants sur Paris et sur la région en data et en IA, si tu dois leur donner un conseil pour préparer l'avenir du coup, qu'est-ce que tu leur dirais?
Il y a deux points.
Venez écouter mes formations. pas mal, ça c'est bon, c'est fait, ils ont compris.
Il y a deux points. Le premier, si jamais pour X raison vous faites un rejet complet de l'IA, vous voulez pas faire de l'IA, demandez-vous si vous avez les capacités, les moyens de faire partie du top 1% de votre domaine sans l'IA. Dans ce cas-là, pourquoi pas, ça se tente, parce que vous ferez partie du top 1%, que vous aurez aucun problème et que ce sera bien même sans IA. Par contre, si vous comprenez que vous n'avez pas les moyens ou même que l'IA vous intéresse, dans ce cas-là, ok, réfléchissez à comment est-ce que je peux faire la différence, comment est-ce qu'en combinant les compétences et l'expérience que j'ai déjà et avec les nouveaux outils, je peux arriver finalement à un point que les autres ne pourront pas atteindre ou que ce sera difficile d'atteindre. Parce que vous vous rendez compte que quand on se dit « Tiens, j'ai fait ma carrière en graphisme, il y a l'IA, tiens, je vais m'en servir pour devenir développeur », ok, du coup, on part au même niveau que tout le monde. Et donc, c'est là, ça n'a pas intérêt, il n'y a pas de différence. Si tout le monde part au même niveau, on repart au niveau zéro. C'est comme si on commençait à développer il y a 10 ans, ça aurait été le même niveau. C'est juste que ça devient plus la barrière à l'entrée diminue et que tout le monde part un peu plus loin. Mais ça reste la même chose. Il faut se demander, par rapport à ce que je sais déjà, ou même ce qui m'intéresse, où est-ce que je peux aller où j'aurai un avantage par rapport aux autres? Où est-ce que je peux aller où j'ai un intérêt, enfin un attracteur étrange, sans savoir pourquoi? Est-ce que peut-être ça va être dans la création, peut-être que ça va être, on sait rien, dans le design, peut-être que ça va être dans n'importe quoi. Mais se demander où est-ce que je peux aller faire ma différence. Personnellement, c'est dans l'éducation, c'est dans la création. J'ai une amie qui est une ancienne DA, qui avec les IA s'est plongée à fond dans Midjourney, qui aujourd'hui fait partie des 10 artistes Midjourney les plus reconnus dans le monde, parce qu'elle a utilisé son passé. Exactement. Il faut se demander, faut partir finalement de ses forces sur son passé, construire sur son passé pour préparer son futur grâce aux outils du présent.
Pas mal comme slogan. Pas mal comme slogan. Hyper optimiste. Du coup, tu t'envoies un bon message à ces personnes-là.
Parce que, imaginons, dans le pire des cas, l'IA nous bute tous, on est foutus. À quoi ça sert d'être pessimiste? Dans tous les cas,
worst case scénario.
On n'aura pas les moyens d'aller contre, donc autant s'amuser, autant avoir une vision positive.
Autant rentrer dedans, c'est clair, c'est clair. Bah, génial, écoute, c'est hyper intéressant tout ça. Si tu dois nous parler un peu de tes actualités, du coup, tu nous parlais de newsletter, tu nous parlais de Fria.
Ouais.
Je crois que tu lances aussi bientôt des nouvelles chaînes.
J'ai lancé ma chaîne YouTube, du coup, il y a un mois au moment où on tourne. Je sais pas quand est-ce que l'épisode sera publié.
Début d'année,
ok, bah du coup il y a un mois et demi voire deux mois où j'ai pour l'instant que quelques vidéos où pareil là c'est justement mon but, là où je vais plus sur mes autres plateformes rentrer plus dans le,
parce qu'aujourd'hui t'étais full LinkedIn
newsletter, ouais.
Newsletter.
Où j'étais plus du coup plus dans le fonctionnement etc, là YouTube j'ai plus m'amuser justement à raconter des histoires, ce dont je parlais au fait de mon but ça va être d'intéresser les gens à l'IA.
Et donc,
de...
tu es seul face caméra et tu parles sur ton. Sur
c'est ça, avec du montage, avec différentes choses, mais un format storytelling pur. Quoi. Un format à la Leodolf, à la Hardisk, il y a plein d'exemples comme ça, finalement, de storytelling pur où je vais raconter l'IA, où je vais finalement intéresser les gens à ce qui m'intéresse. Mon but, c'est de passionner les gens en tant que passionné.
Donc, d'actualité, nouveauté.
C'est ça, plus raconter les histoires.
D'accord.
Tu vois, un peu comme ce que peut faire un Seb aussi, que tu connais. Sur la musique.
Ouais.
Ça sur l'IA. Tu vois, il y a des gens, par exemple, je m'intéresse pas à la musique, pourtant ces vidéos elles sont incroyables parce qu'elles racontent bien. Donc mon but c'est de faire la même chose sur l'IA.
D'accord. C'est format court.
Format de. Généralement au moins une dizaine de minutes.
C'est
le format d'une histoire. Enfin, entre, on va dire, 6 et 15 minutes.
Super intéressant. Donc,
et d'ailleurs, au moment où ça sera publié, probablement si c'est en janvier, je serai probablement du coup dans. J'ai envie de me donner un challenge justement pour progresser parce que quand je fais un truc, justement, je le fais à fond.
Tu peux publier une fois par semaine.
Non, une fois par jour.
Une fois par jour, pardon.
Une fois par jour. Je me suis dit, tiens, je suis pas encore assez bon, je progresse pas assez vite sur l'écriture. Et si je devenais maso et que je me faisais un script par jour, un truc qui prend une semaine normalement.
Ça promet pour tes résultats à l'école, hein, du coup.
J'ai passé mes examens, ce sera dans 3-4 mois les prochains.
Ça va, c'est bon alors, on est bon. Ok, parfait. Bah, alors, petit mot de la fin, du coup, on en parlait un petit peu avant le podcast. Si tu dois nous citer un livre, un livre intéressant à lire.
Dédié à l'IA ou en général ?
En général.
En général. Et quelle est ma dernière lecture que j'ai bien aimée, qui était intéressante ? Bon, allez, ma dernière lecture papier, on va dire, qui est un classique dont je dois parler, c'est Dune, forcément, qui est un classique que tout le monde connaît généralement.
j'irai le lire.
Perdu.
Ne me vise pas. Je vais aller.
Qui est intéressant, alors qu'il n'est pas tant. Enfin, il y a un peu de. On parle un peu de tech, on parle un peu d'IA dans une phase détournée, notamment avec le djihad butlérien qui est évoqué, qui est globalement le passé de Dune, en fait, où il y a une. Où les machines, justement, sont devenues intelligentes, se sont révoltées contre les humains, et il y a une guerre, et bref, les machines se sont fait battre, et du coup, toutes les machines sont bannies. C'est aussi un prétexte pour revenir à des combats à l'épée et revenir à des trucs un peu stylés. Mais du coup, c'est pas intéressant et c'est un bouquin qui va vraiment rentrer dans le détail, qui va recréer un univers virtuel. C'est là où Frank Herbert est très très bon. C'est finalement recréer un monde virtuel. Ce qu'aujourd'hui, lui le fait à travers les livres, aujourd'hui on est capable de recréer des mondes virtuels avec des personnalités autonomes grâce à de l'IA. Il y a des initiatives qui ont été faites là-dessus et je trouve ça complètement dingue de pouvoir recréer un monde, même un jeu vidéo, où les personnages intérieurs ont l'impression de vivre réellement. Alors, ça peut se rapprocher d'un scénario de Black Mirror où on se rend compte que finalement, nous-mêmes, on est uniquement des personnages animés d'une conscience propre dans une simulation plus haute. Mais je trouve ça quand même archi délire.
On ira voir, on va le lire. La GI, pour finir.
Ouais, oula.
Allez, ouais, de la fin.
C'est un truc sur lequel on pourrait parler pendant une demi-heure.
La GI. Parce que tu me parlais de monde virtuel, d'intelligence artificielle.
Ouais, la GI.
Est-ce qu'on y va ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que c'est utopique ?
Utopique, je pense pas. Déjà, faut se rendre compte, la GI, pour expliquer rapidement, ce serait une intelligence artificielle générale qui serait capable de globalement tout faire, ou en tout cas faire tout ce qu'un humain serait capable de faire. Ce qui signifierait donc que théoriquement l'humain n'aurait plus de valeur, en tout cas de valeur ajoutée. Théoriquement. Parce qu'il y a aussi du coup l'intellect, il y a aussi les idées, il y a aussi plein de choses. Mais est-ce que l'IA n'est pas capable de relier les idées, puisque les idées c'est finalement uniquement faire des liens entre d'autres idées? Bref. Techniquement parlant, on n'est pas capable de créer une AGI aujourd'hui. Et on ne voit pas, en fait, aujourd'hui on ne voit pas comment est-ce qu'on serait capable d'en créer une. Par contre, en pratique, on se rend compte que les différentes étapes qui amènent à l'AGI, justement, qui est l'objectif de différentes compagnies, on les brûle quand même assez vite.
Ouais, ça va très vite.
Alors, attention, parce que parfois on a l'impression finalement qu'il y a différents aspects de l'AGI qu'on arrive à atteindre, mais en fait, c'est de l'illusion. On arrive à atteindre, on a cette apparence-là, mais le fonctionnement fait qu'on est aux limites de ce fonctionnement-là, et c'est un peu plus un tour de passe-passe qui nous permet d'avoir cette illusion-là. Je pense par exemple au multimodal de ChatGPT, qui n'est pas un vrai multimodal, qui est un multimodal où on a construit les fonctions à côté, à la fin on leur a mis fonctionner ensemble. Bah, c'est pas un vrai multimodal. Par exemple, le Gemini, la promesse du Gemini, c'est d'être un vrai multimodal. On va pas parler de Gemini parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc techniquement, on n'est pas capable, on ne voit pas comment est-ce qu'on serait capable. Par contre, bah, concrètement, on avance de plus en plus vite et la barrière technique, c'est qu'une question de temps. Quel horizon, je ne sais pas.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui a peut-être fait sauter Sam Altman.
Non, ce serait plus Q-Star, ce qui est pareil, qui est une étape sur le chemin de la GI, mais qui est plus lié au maths et qui est plus lié, en fait, globalement, pour la faire très courte, a priori, c'est une rumeur, mais ce pourrait être l'une des raisons possibles pour le départ et l'histoire de Sam Altman. Q-Star, qui serait le dernier développement qui a été leaké, qui a été validé par OpenAI à propos d'une avancée de ChatGPT, qui sera donc dans le prochain GPT, donc GPT-5, on attend, qui a résolu un problème de maths sur lequel il n'avait pas été entraîné.
Incroyable.
Ce qui donc veut dire, pour la faire, enfin pour expliquer, parce que ça peut paraître basique en fait,
oui, normal. Parce que normalement, ChatGPT est censé reproduire ce qu'on lui entraîne.
En fait, il faut se rendre compte que la logique, c'est pas logique. Les IA qui en parlent, etc., n'ont pas de logique. Tout ce qu'elles voient, c'est des 0 et des 1. Et elles sont traînées après dire la suite. Et donc, arriver à une forme de logique.
Il y a l'Othello, il y a le test de l'Othello aussi. Je sais pas si tu avais parlé. En gros, ils ont donné un Othello, un jeu d'Othello. Ouais. Et ils se sont rendu compte que pour résoudre le jeu, il a créé lui-même des suites numériques. Et donc ça, c'est fou, parce qu'on s'est dit, mais c'est lui qui a créé des suites numériques.
Alors, je trouve ça moins fascinant, parce qu'il y a des exemples, du coup, il y a probablement des exemples de création de suites numériques.
Il y a eu des exemples de ça ?
Bah, dans son entraînement, il y en a probablement, déjà.
Ah oui, exemples. Oui, d'accord, on l'a déjà entraîné sur création de numériques.
Là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est un problème, sur ce type de problème, il n'avait pas été entraîné dessus, et donc il a été capable de comprendre la logique du problème, alors qu'il n'a pas de logique. Enfin, en tout cas, en fait, on ne sait pas réellement comment fonctionne la logique. Le cerveau humain... le cerveau humain, on sait à peu près de très loin comment est-ce qu'il fonctionne, mais ça reste très flou. Et on ne sait pas vraiment comment fonctionne, par exemple, la conscience, comment fonctionne... Bah, si, les émotions, on sait, mais il y a pas mal de trucs qu'on ne sait pas vraiment.
On sait où ça se passe dans le cerveau, mais on ne sait pas trop ce qui fait que ça fonctionne.
On ne comprend pas comment, pourquoi. Donc, bah, peut-être qu'en fait, on va se retrouver à créer une conscience sans faire exprès, et qui serait potentiellement un chemin vers l'AGI, d'ailleurs, qui est... la conscience, je pense, enfin, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, je suis pas sûr que la conscience soit nécessaire pour arriver à l'AGI.
Je pense pas non plus, je pense pas que l'AGI serait conscient.
Bah, on raccroche souvent les deux. Et d'ailleurs, on a aucun intérêt aujourd'hui à créer une conscience, mais peut-être qu'on va finir par le faire sans faire exprès. C'est ça. Mais on a aucun intérêt capitalistiquement à créer une conscience à l'IA, parce que l'intérêt de l'IA, c'est justement au contraire qu'elle en a pas, et que bah, elle a ni éthique ni conscience, qu'on peut la faire bosser 24 heures sur 24 et qu'elle va pas se poser de questions.
Donc, c'est marrant, une IA qui te dit non, je suis aux 35 heures, c'est bon, je m'arrête.
Non, je pense plus récemment, c'est des histoires avec Replica, avec même l'employé de chez Meta, il me semble, qui avait parlé non, elle est consciente, elle est enfermée, il faut libérer l'IA sur laquelle il travaillait.
C'est iRobot un peu ça.
Ouais, mais en fait, c'était une fausse confiance. C'était juste lui, la manière dont tu l'as parlé, où ça a donné l'impression. Il faut faire attention. Mais donc, revenons vers l'AGI. C'est la très grande peur de la majorité des acteurs dans la tech. Et c'est pour ça que c'est les deux camps qui se séparent. On a parlé très rapidement en parlant de Sam Altman, l'effectif altruisme, et j'ai oublié le nom de l'autre, mais globalement, c'est ceux qui sont pour l'open source et qui sont pour la tech. Globalement, d'un côté, on a ceux qui sont en mode la tech, c'est cool, mais ça va très vite, c'est quand même assez dangereux, il faut quand même qu'on le sécurise, il faut quand même qu'on prenne notre temps, qu'on soit tranquille. Et l'autre côté, c'est ceux qui sont en mode bah, c'est cool, venez, on donne les clés à tout le monde pour que tout le monde s'amuse à créer des trucs de ouf.
D'avoir entre les deux, je pense.
La majorité, c'est quand même une bonne polarisation, parce que c'est dur d'être entre les deux. C'est pas enfin, on se retrouve à être entre les deux, mais c'est un peu bâtard, parce que entre les deux, ça veut dire je te donne les clés, mais pas complètement. C'est bizarre. On peut pas. C'est soit on donne les clés, soit on les donne pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai conflit d'opinion, un vrai conflit de philosophie, et qui fait que c'est relativement dangereux. Mais la grande peur de toutes les personnes justement qui sont dans l'effectif altruisme, qui sont en mode faudrait peut-être sécuriser quand même un peu, et c'est ce qui était d'ailleurs l'objectif d'Elon Musk, qui est effectif altruisme avec la création d'OpenAI, c'est créer une AGI en contrôlant, en gardant la sécurité pour éviter que ça parte n'importe comment. Sam Altman est de l'autre camp. Sam Altman a pris le pouvoir. On verra comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très excitant, que c'est très dur de prédire le futur, que peut-être on sera tous tués par des IA qui seront conscients et qui se diront « Bah non, c'est des méchants, on est meilleurs qu'eux, parce qu'on a fait la même chose avec les animaux. » On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser, que ça va être marrant et que, en tout cas, c'est très excitant.
Eh ben, merci beaucoup, Théo.
Merci à toi pour l'invitation.
C'était hyper intéressant. J'espère que nos auditeurs vont apprécier toutes ces informations. Je te souhaite de réussir tes examens. À bientôt.
Je suis pas trop inquiet. Faut pas dire, j'ai l'IA qui m'aide.
Ça devrait aller. Tu vas te faire aider par l'IA. Et puis, on va suivre toutes les actualités passionnantes, tout ce que tu nous as expliqué là. Et je te remercie d'avoir participé au Deep Talk.
Bah merci. Bonne journée. À la prochaine, Rémi. À la prochaine.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du Deep Talk.